Donc, on en était au numéro 319, c'est bien ça? Donc, le titre des numéros 319 et 320, c'est Spiritualité de l'amour exclusif et libre. Alors, 319, c'était plutôt le côté exclusif, et 320, c'est plutôt le côté libre. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Là, on va lire. Il y a un point où l'amour des conjoints atteint sa plus grande libération et devient un lieu d'autonomie saine. Lorsque chacun découvre que l'autre n'est pas sien, mais qu'il a un maître beaucoup plus important, son unique Seigneur. Personne ne peut plus vouloir prendre possession de l'intimité plus personnelle et secrète de l'être aimé, et seul le Seigneur peut occuper le centre de sa vie. En même temps, le principe de réalisme spirituel fait que le conjoint ne veut plus que l'autre satisfasse complètement ses besoins. Voilà. Alors, donc c'est un moment important aussi où justement on accepte qu'il n'y a pas de mariage parfait. Alors j'ai repris un article du père Denis Sonnet. Qui dit qu'il n'y a pas de mariage parfait. Alors, il y en a qui sont très heureux en mariage, et puis il y en a qui imaginaient que ça serait le paradis, et puis finalement, ce n'est pas exactement le paradis, quand même, le mariage. Alors, il cite une dame qui lui dit: « Je me suis mariée pensant que je connaîtrais le vrai bonheur. Ma solitude de jeune fille allait enfin se terminer. Avec mon mari, un jeune homme charmant pendant nos fiançailles, j'étais convaincue de réaliser le plus merveilleux couple du monde. J'étais persuadée que nous partagerions tout, nos aspirations, nos pensées, nos projets, notre foi. Je ne vais pas dire que je suis tombée de haut, mais quand même, j'étais vraiment déçue. Il importe de dire aux jeunes que le mariage n'est pas le paradis, je n'y ai pas trouvé ce dont j'avais rêvé. » Ça calme un peu. Mais il y en a d'autres qui disent: je me suis marié croyant que c'était bien, mais c'était tellement mieux. Ou une autre: je me suis marié les yeux fermés et je ne le regrette pas. Ah, donc, il y a un peu tous les avis. Bon. Mais en même temps, de savoir que l'amour humain, d'un certain côté, est toujours un peu décevant. C'est Paul Claudel qui disait qu'il était une promesse non tenue. Alors, et il dit justement dans... Ah non, alors, non, ça c'est des quelques dictons. Il n'y a pas de bois sans nœud. Il n'y a pas de femme sans défaut. Vous êtes d'accord? Ben pour équilibrer, il n'y a pas de mari parfait, pas même celui de la voisine. Voilà. Voilà. Alors, mais bon, peut-être quelquefois on peut être un peu perfectionniste, on pense que l'autre va nous compléter, va satisfaire tous nos besoins. Il y a le mythe de la fusion aussi, le rêve d'une union merveilleuse et sans conflit, voilà, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais finalement, une autre expression que j'aime bien, c'est devenir adulte, c'est gérer l'imparfait. S'accepter limité, accepter les limites de l'autre, c'est quitter les rêves de l'adolescence. Devenir adulte, c'est gérer l'imparfait. Je pense que c'est... Alors, il y a une dame qui disait: si mon mari était parfait, je m'ennuierais. Donc, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer, peut-être. Peut-être. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de profond au-delà de tout ça, c'est que finalement, il n'y a que Dieu qui peut nous combler totalement. Donc c'est ce que dit le pape François dans ce numéro 320. Quelque part, justement, c'est une chance, d'une certaine manière, c'est cet aspect imparfait qui au quotidien est un peu pénible quelquefois, mais en même temps, ça nous montre qu'on est encore sur la terre. Mais qu'au ciel, on n'aura plus ni femme ni mari. Hein, tout à l'heure, pourquoi la vie religieuse indique plutôt le ciel? C'est parce que la chasteté n'a pas de sens uniquement pour la terre. C'est vraiment en vue du royaume. C'est la chasteté pour le royaume, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Mais voilà, seul Dieu pour nous combler totalement. Alors, dans le soulier de satin, l'héroïne dit à celui qu'elle aime « Ce qu'aucune femme n'était capable de fournir, pourquoi me l'avoir demandé ?» Parce que, quelque part, on peut écraser l'autre avec nos exigences, etc., que l'autre, il est limité aussi, et puis donc, il peut pas non plus... il n'est pas Dieu, quoi. Et alors, dans ce numéro 320, toujours, donc, le pape parle de cette liberté d'acquérir une forme de liberté intérieure. Alors ça, c'est tout un programme, cette liberté intérieure. Bien sûr, c'est pas une liberté dans le sens d'une émancipation extérieure, etc. Mais c'est être vraiment libre vis-à-vis de l'autre, puisque notre premier point de repère, c'est Dieu. Alors, il parle d'une saine autonomie aussi, l'amour des conjoints atteint sa plus grande libération et devient un lieu d'autonomie saine. Ce n'est pas une indépendance où on vit sur des rails parallèles. Ce n'est pas ça l'autonomie. C'est l'autonomie, on peut vivre même si l'autre a ses moments de faiblesse, on arrive encore à tenir debout quand même. C'est ça qui est cette vraie liberté qui fait que... Au numéro 321, que j'ai un tout petit peu évoqué ce matin, alors c'est 321, 322, 323, et jusqu'à la fin, je crois, le pape parle de cette spiritualité de l'attention, de la consolation et de l'encouragement. Une petite phrase que j'aime bien. La famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche. Et c'est vrai que, heureusement qu'on a la famille dans bien des situations. Pour ceux qui n'ont pas de famille, c'est aussi quelque chose de difficile. Quand on est une famille, et puis comme si on n'avait pas d'hôpital à proximité pour les cas d'urgence, etc. Quand il y a un drame, heureusement qu'il y a les liens familiaux quand ils sont là. La famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche. Prenons soin les uns des autres. Soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres. Et vivons tout cela comme faisant partie de notre spiritualité familiale. On était quelques aspects de la spiritualité familiale, le fait que on ne pouvait pas se cacher dans la famille, on est dans la vie réelle. Il y a aussi cet aspect de joie et de paix. Et puis, il y a cet aspect de prendre soin les uns des autres. Les deux, les conjoints, sont entre eux les reflets de l'amour divin qui console par la parole, le regard, l'aide, la caresse, par l'étreinte. Tout à l'heure, on parlait de cette présence de Dieu dans le couple. Mais voilà, c'est un lieu de la présence de Dieu dans le couple quand l'un des conjoints vient consoler l'autre ou le ou par son regard bienveillant et amoureux, par son aide, ses caresses, par son étreinte. Voilà, c'est Dieu qui se rend présent aussi. Et de fait, dans la société actuelle, le principal facteur d'isolement, c'est le fait que la famille va un peu à volo. C'est ça, quand même, une des plus grandes causes de solitude. Il y a bien des causes de solitude, mais il n'y a pas que les personnes âgées qui sont seules. Il y a bien des gens qui sont jeunes, qui ont toutes leurs capacités, mais qui sont seules. Il n'y a personne qui s'intéresse de façon désintéressée à eux, qui console par la parole, les regarde, les voilà. Au numéro 322. Il y a une belle citation de Gabriel Marcel, entre autres. Aimer un être, c'est attendre de lui quelque chose d'indéfinissable, d'imprévisible. C'est en même temps lui donner en quelque façon le moyen de répondre à cette attente. J'aime beaucoup cette phrase que reprend le pape. Aimer quelqu'un, c'est attendre de lui quelque chose. Pour certaines personnes, c'est difficile de sentir que personne n'attend rien d'eux. Mais justement, derrière, on pourrait voir une certaine espérance vis-à-vis de la personne qui vient la stimuler à se donner, etc., et à ne pas s'enfermer, mais à faire valoir ses dons, etc. Mais faire valoir ses dons quand personne ne croit en nous, quelque part, c'est difficile. Mais alors j'aime bien cette phrase. Aimer un être, c'est, vous sentez, c'est pas d'abord faire quelque chose pour la personne, c'est d'abord attendre quelque chose de cette personne. Parce que notre premier réflexe, c'est un bon réflexe en un sens, hein. Je vous ai déjà raconté cet épisode un jour pour des cadeaux de Noël. Non ? Il y avait eu un petit oubli, on avait oublié d'envisager les cadeaux. Souvent, au début de l'Avent, on tire le nom d'un frère, on prie pour lui, et puis voilà. Et puis du coup, on avait oublié. Et du coup, j'avais suggéré, avec beaucoup de générosité, mais on pourrait donner du temps à un frère. Mais je n'avais pas réfléchi jusqu'au bout que c'était aussi accepter d'en recevoir du temps d'un frère. Donner, voilà, j'étais partant, mais en recevoir, je n'étais pas forcément si partant que ça de chacun des frères de la communauté. Alors du coup, c'était une occasion de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ma manière de faire. Parce que aimer, encore une fois, c'est pas seulement donner quelque chose à l'autre, c'est attendre. Et l'autre... Et c'est en même temps lui donner en quelque façon le moyen de répondre à cette attente. Je trouve que c'est... Donc, bon, vous pourriez déjà afficher cette phrase chez vous. Ça vaut en couple, ça vaut aussi vis-à-vis des enfants, ça vaut c'est en communauté, hein, bien entendu. Mais en même temps, pas attendre quelque chose de démesuré qui écrase l'autre. Hein, vous sentez qu'il y a tout un doigté à avoir dans tout ça. Voilà, alors numéro 323. C'est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Alors ce soir, en rentrant, vous allez contempler votre mari, il va se demander ce qui se passe. Cela demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité. L'être aimé mérite toute l'attention. Il y a un aspect très contemplatif dans la manière de dire du pape François. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose pour les autres, mais de que l'autre sente qu'il est important. Jésus était un modèle, car lorsqu'une personne s'approchait pour parler avec lui, il arrêtait son regard, il le regardait avec amour. Personne ne se sentait négligé en sa présence. Puisque ses paroles et ses gestes étaient l'expression de cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? La tendresse s'exprime en particulier en se tournant avec attention et délicatesse vers l'autre dans ses limites, spécialement quand elles apparaissent de façon évidente, pense à la vieillesse. Et au numéro 324, c'est un aspect un peu différent que développe le pape François. Il parle de cette ouverture à l'extérieur de la famille. Cette ouverture se révèle surtout dans l'hospitalité. Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle est symbole, témoignage, participation de la maternité de l'Église. Ça, c'est aussi une belle dimension de la famille. Alors, il faut... Là, vous sentez qu'il y a toujours un équilibre à trouver aussi dans... C'est que la famille, c'est important qu'elle soit très ouverte. En même temps, il faut aussi vivre des temps vraiment en famille. Je pense en communauté aussi, c'est important de pouvoir accueillir. Et puis, en même temps, c'est important d'avoir des moments de communauté où on met tout le monde dehors pour être entre nous. Donc... Mais ça, c'est chaque famille qui a trouvé son rythme. Ce n'est pas forcément exactement la même chose pour chaque famille. Hein, mais il y a cette dimension de l'hospitalité qui est importante, qui vient renouveler aussi les liens dans la famille. Et le numéro 325, dernier numéro. Alors, le pape prend deux citations. Est-ce que vous vous rappelez Matthieu 22, chapitre 22, verset 30? Il faut me reposer. Alors, c'est Jésus qui dit « À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. » C'est le moment où les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection, lui posent un piège. Alors la femme, là, elle a eu cette mari avec qui elle va être au ciel. Il dit, ben non. Mais, alors du coup, donc ça se réfère vraiment à cette relativisation du mariage, c'est par rapport à l'éternité. Et dans le Saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31, voilà ce qu'il dit. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Voilà ces deux citations. Donc voilà ce que dit le pape. Les paroles du maître et celles de saint Paul sur le mariage sont insérées dans l'ultime et définitive dimension de notre existence que nous avons besoin de revaloriser. Et c'est vrai, quand on voit bien le terme du chemin, ben ça nous aide à bien recaler les choses, on pourrait dire, pour le chemin, pour les moyens à mettre en œuvre pour y aller. Aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes. Mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Alors là, vous pourriez aussi l'encadrer. La famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Et la vie familiale est là aussi pour nous, nous stimuler à nous sortir de nous-mêmes et à aimer. Alors, ça ne se fait pas forcément toujours, ce n'est pas toujours très, très facile. Mais justement, c'est pour entraîner notre cœur à s'élargir. Ça ne se fait pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Benoît XVI en parlait très bien quand il disait que on imagine quelquefois les jeunes ont l'illusion qu'ils pourraient être Mère Teresa du jour au lendemain, mais de fait ça se fait pas comme ça. Il y a une souffrance hein, pour le cœur, il s'élargit pas sans souffrance. Il faut pas s'imaginer que voilà, ça nous coûtera pas d'aimer. À un certain moment, quand on est amoureux, bon, peut-être, mais à d'autres moments, ça nous coûte. Et c'est normal, parce que c'est voilà, comme l'entraînement dans le sport, ça demande un effort, hein, y a pas de secret. Si on veut pas d'effort, on n'ira pas très très loin. Et je vous avais déjà cité une parole du curé d'Ars, peut-être, qui parle de l'enfer. Ça vous dit quelque chose ? Alors, je vous la recite, Si un damné pouvait dire une seule fois « Mon Dieu, je vous aime », il n'y aurait plus d'enfer pour lui. Mais hélas, cette pauvre âme, elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu. J'aime beaucoup cette définition de l'enfer. Elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu. Et je trouve que c'est une belle définition de l'enfer. Tu veux que je répète ? Cette pauvre âme... Alors, je cite tout. Voilà. Si un damné pouvait dire une seule fois « Mon Dieu, je vous aime », il n'y aurait plus d'enfer pour lui. Mais hélas, cette pauvre âme, point d'exclamation, elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu. Parce qu'il continue, et dont elle n'a pas su se servir. Elle a perdu le pouvoir d'aimer qu'elle avait reçu, et dont elle n'a pas su se servir. Ah, très bien. Voilà. Alors je continue. Son cœur est desséché comme la grappe lorsqu'elle a passé sous le pressoir. Plus de bonheur dans cette âme, plus de paix, parce qu'il n'y a plus d'amour. L'enfer prend sa source dans la bonté de Dieu. Les damnés diront « Oh, si du moins Dieu ne nous avait pas tant aimés, nous souffririons moins. L'enfer serait supportable, mais avoir été tant aimé, quelle douleur !» Et je trouve donc c'est le dernier numéro. Ah, j'ai oublié de... J'avais commencé à tirer la prière à la Sainte Famille que donne le pape, mais tant pis. Oui, je la donnerai.
Elle est sur notre livre.
Ah bah oui. Alors bon, on la dira à la fin. Alors, avez-vous des questions? Sinon, je peux vous rajouter quelque chose. On les retrouvera. Si, on les retrouvera. Quelque part, les liens qu'on tisse ici. tous les liens qu'on tisse ici, c'est déjà du gagné pour le ciel. Voilà. Mais, alors, si, alors bien sûr. Mais, c'est. Le mariage est quelque chose pour la terre et non pas pour le ciel, dans le sens où Le centre, celui qui nous comblera totalement dans le ciel, c'est quand même, c'est Dieu. Alors, et du coup, le mariage aussi sur la terre, c'est aussi, en tout cas quand on le vit bien, c'est justement le fait d'être, les époux sont l'un pour l'autre comme le signe de l'amour de Dieu. Mais il n'y aura plus besoin de ce signe au ciel parce qu'on verra Dieu face à face, donc quelque part. Mais bien sûr que tous les liens d'amour qu'on aura tissés, voilà. Et on peut dire d'une autre manière, il vaut mieux essayer de s'entendre avec les gens pendant qu'on est sur terre, parce que au ciel, on sera tous les uns à côté des autres. Si on ne veut pas s'asseoir à côté de quelqu'un au ciel, ben on aura du mal à aller au ciel. Ben pour imaginer un peu la... Parce que le bon Dieu, il désire que tous s'aiment dans le ciel. Il n'y a pas de place pour des inimitiés dans le ciel. Donc ça veut dire qu'on soit prêt à aimer tout le monde aussi. Ben oui, oui, si on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, oui. Vous avez d'autres questions ? Alors, pas la souffrance en tant que telle, mais l'amour avec lequel on vit une souffrance, oui. C'est Catherine de Sienne, docteur de l'Église, qui disait « Ce ne sont pas les clous qui tiennent Jésus sur la croix, c'est l'amour qu'il tient sur la croix. » Et dans la croix de Jésus, bon, il y a l'aspect de la souffrance qui est bien réel, mais le plus essentiel, c'est que Jésus ait offert ses souffrances avec amour. Parce que des souffrances vécues sans amour, ça nous intoxique et ça nous tue, mais ça n'apporte rien. Mais c'est dans la mesure où on les vit bien, que les souffrances peuvent... Alors, nos souffrances, c'est en tant qu'elles sont unies à celles de Jésus, mais c'est dans cette mesure-là que nos souffrances sont rédemptrices, oui. Hein, c'est pour ça que saint Paul dit, ben, ce qui manque à la passion de Jésus, ben, je l'accomplis dans mon corps, pour mes souffrances, pour son corps qui est l'Église. Hein, donc, mais nos souffrances sont précieuses aussi. Mais ce qui est le plus précieux, c'est pas la souffrance en tant que telle, c'est l'amour avec lequel on vit les choses. Parce que la souffrance en tant que telle, ça n'a pas grand intérêt. Hein. A priori. Mais bon, il y a des souffrances, ben, voilà, on fait avec. Et puis... Mais justement, pas de façon résignée, mais de façon volontaire, quelque part. Comme Jésus qui dit, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Il y a une manière de vivre la souffrance résignée qui n'est pas... qui n'apporte pas grand-chose. Oui, c'est ça. Donc on ne la subit pas purement et simplement, même si on ne l'a pas choisi au point de départ, mais on l'offre.
C'est pas laisser la souffrance nous envahir.
C'est ça, et nous intoxiquer, nous... D'autres questions ? Alors, je vous fais un petit quelque chose qui n'a rien à voir, enfin, rien à voir, un petit... Il y a quand même un lien, on est dans le même thème. Alors, il n'est plus à la librairie, je l'ai piqué, donc... C'est... les couples heureux ont leur secret. Et alors, peut-être je peux vous faire une rapide présentation. Je m'arrangerai à ce qu'on en ait d'autres à la librairie, parce que je trouve très intéressant, pas seulement pour les couples, mais aussi pour la communauté. À vrai dire, il y a des rapports humains dans... Voilà. Alors peut-être que je peux vous en faire, sauf si vous voulez prier et puis vous en allez, je peux vous en faire une petite présentation. On leur secret, les couples de Gottman. En fait, il est juif. C'est un Américain, alors c'est écrit un peu à l'américaine, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. John Gottman. Les couples heureux ont leur secret.
Est-ce qu'il faut que les personnes qui en offrent, par exemple, ce livre, aient une certaine spiritualité ?
Non. Non, il l'écrit. Non, non. Ça, ce livre, c'est vraiment pour toute personne de bonne volonté. Mais non, d'ailleurs, alors, c'est au début, je croyais qu'il était plutôt protestant ou tout ça, mais c'est juste à la fin, quelques pages avant la fin, où il dit qu'il est juif. Et du coup, à ce moment-là, il dit, et je trouve que c'est bien, il l'exprime à la fin, et il dit pourquoi c'est important. Alors, attendez, que je ne sais pas si je vais le retrouver. Justement, c'est dans... voilà, ça doit être ça. L'un des chemins vers la miséricorde peut être votre foi religieuse. Ma propre religion, le judaïsme, m'a aidé à chérir et à nourrir ce qui est bon et fort en moi et dans ma relation. Dans le judaïsme, la prière sert essentiellement à l'action de grâce ou à la louange. Et pourtant, cette religion affirme que Dieu n'a pas besoin de louanges, de flatteries ou de remerciements incessants. Quel est donc le but de ces prières? Ce n'est pas à Dieu qu'elles bénéficient, mais à celui qui prie. Ces prières sont censées nous faire apprécier l'œuvre de Dieu, ce monde merveilleux dont nous avons hérité, et nous faire remarquer avec gratitude toutes les bénédictions qui nous sont constamment prodiguées. Quelle que soit votre religion, c'est un message qu'il faut retenir. Les remerciements et les louanges sont les antidotes au poison de la critique et de son cousin meurtrier, le mépris. Alors, bon, je ne vais pas tout vous dire, sinon... ce qui me paraît intéressant... Il y a plusieurs choses qui me paraissent intéressantes dans ce livre. C'est déjà qu'il... il dit que les couples, finalement, qui sont... Qu'est-ce qui fait que certains couples réussissent? C'est son premier chapitre. C'est finalement qu'ils sont parvenus à établir une dynamique qui empêche leurs pensées ou sentiments négatifs à l'égard l'un de l'autre de submerger leurs pensées ou sentiments positifs. Et ils se comprennent et se respectent l'un l'autre. C'est un couple émotionnellement intelligent. Qu'est-ce que c'est un couple émotionnellement intelligent? Autant que j'ai pu le comprendre. Hein. Et on peut être une communauté émotionnellement intelligente ou émotionnellement imbécile. Dans le sens, c'est justement, c'est pas s'arrêter simplement aux choses qui nous énervent, mais essayer de comprendre qu'est-ce que vit l'autre. C'est ça, être émotionnellement intelligent. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe en lui et tout ça, et pas en rester uniquement à ce qui m'énerve et ce qui... Parce que sinon, si on en reste qu'à ce qui extérieurement nous énerve, on risque de pas beaucoup avancer et de se prendre en grippe. Mais si on est émotionnellement intelligent, on arrive à se décentrer suffisamment de soi-même pour prendre en compte les émotions de l'autre. Et je trouve ça très intéressant. Mais ça se travaille aussi, cette intelligence émotionnelle. Et alors, je trouve que une qualité que je trouve à ce livre, il me semble qu'il est assez réaliste. Dans le sens, par exemple, une petite phrase qui dit « Même les couples heureux peuvent avoir des scènes de ménage. Ce n'est pas parce que le ton monte qu'une relation est en danger. » Donc, voilà, vous pouvez vous disputer, c'est pas un problème. Après, c'est la manière dont vous disputez qui est peut-être un peu différente. Il y a des manières de se disputer qui ne mettent pas la relation en danger. Et d'autres manières de se disputer qui sont peut-être moins... où il y a moins de décibels, mais qui sont beaucoup plus dangereuses. Et je trouve que c'est intéressant. Parce que, voilà, on a de la visite, là, en vélo, là. Des gens qui passent par là. Voilà. Et du coup, alors cette intelligence émotionnelle fait qu'on apprend à vivre un certain respect à l'égard des autres. Alors, après, il donne plein d'exercices pratiques à faire. Est-ce que je vous en donne quelques-uns? Par exemple, dans le chapitre 3, je ne peux pas tout vous... Il incite à se connaître. Il appelle ça enrichir sa carte du tendre. Qu'est-ce que c'est que la carte du tendre? C'est finalement se connaître mutuellement. Mais pas connaître simplement sa date de naissance, et puis voilà. Mais connaître ce que vit l'autre. Alors là, il y a combien de... Il y a deux séries de 20 questions. Non. Oui, une série de 20 questions. Après, il y a une série de 60 questions. Alors, plein de questions. Alors, par exemple, je peux nommer les meilleurs amis de mon conjoint. Vrai, faux. Je peux dire ce qui stresse actuellement l'autre. Je connais les noms des gens qui l'énervent. Je connais ses rêves les plus chers. Son attitude vis-à-vis de la religion n'a aucun secret pour moi. Bon, l'autre sait ce qui me stresse en ce moment, etc. Donc il y a un tas de questions pour savoir si on se connaît finalement dans le couple, mais on pourrait dire aussi en communauté, est-ce que finalement je ne me rends pas du tout compte ce que l'autre est en train de vivre. Et il dit que si on ne sait pas ce que l'autre, si on ne connaît pas l'autre, on ne risque pas de l'aimer. Donc ça c'est... Et après, cultiver la tendresse et l'estime réciproque. Alors, il y a des petits exercices toujours, hein, mais... La tendresse et l'estime sont des antidotes au mépris. Dès que l'on reconnaît ouvertement dans une conversation les aspects positifs de son partenaire et de son union, le lien s'en trouve renforcé. Et peut à partir de là faciliter la gestion des problèmes du couple. Un autre chapitre, c'est se tourner l'un vers l'autre au lieu de se détourner l'un de l'autre. Je vous lis encore quelques lignes. Au cours de la vie à deux, on fait régulièrement des offres pour l'attention, l'affection, l'humour ou le soutien du partenaire. Après ce genre d'offres, les gens peuvent soit se tourner l'un vers l'autre, soit se détourner l'un de l'autre. Les partenaires qui ont l'habitude de se tourner l'un vers l'autre créditent leur compte d'épargne affectif. Donc, vous pouvez créditer votre compte d'épargne affectif. Ils remplissent leur cagnotte affective de manière à amortir le choc des mauvais espaces, celles où ils devront affronter un conflit ou l'une des crises de la vie. Alors, il y a 60 questions pour évaluer... votre compte d'épargne affectif. Si je ne veux pas tout vous lire, mais il y a des... Alors c'est amusant certaines fois, mais voilà. Du coup, d'être attentif aux signaux quand on voit que finalement on commence à prendre un petit peu de distance, et ça arrive très vite, on le voit en communauté, hein, parce que c'est... Il y a besoin de relancer toujours l'amitié, hein, comme on disait ce matin, c'est jamais gagné une fois pour toutes un amour, et ça suppose de se relancer mutuellement, etc. Le chapitre 6. Alors les hommes en prennent plein dans le chapitre 6, donc je le passe. Il dit qu'il y a 7 lois pour les couples heureux, et la loi numéro 4, c'est se laisser influencer par son partenaire. Il parle souvent de partenaire, hein, c'est pas... Et voilà. À notre époque, les hommes qui permettent à leurs femmes... Vous allez le... Tu veux le mettre aussi dans les intentions, non? À notre époque, les hommes qui permettent à leurs femmes de les influencer... sont plus heureux en ménage et ont moins de risques de divorcer que ceux qui résistent à son influence. Il s'agit de laisser influencer nos décisions en tenant compte des opinions et des sentiments du conjoint. Les unions les plus heureuses sont celles où l'homme traite la femme avec respect et n'hésite pas à partager avec elle le pouvoir ainsi que le processus de décision. Voilà. Alors, mais c'est vice-versa, hein, parce que dans certains couples, c'est madame qui porte la culotte et qui prend toutes les décisions. Mais en tout cas, et ça c'est vrai en communauté aussi, hein, c'est tout simple. Est-ce qu'on accepte la vie de l'autre ou est-ce qu'on s'enferme dans son... et ça, ça se travaille. C'est vrai que c'est, on aime bien notre avis, c'est normal, hein, mais... la volonté de partager le pouvoir et de respecter le point de vue de l'autre est un prérequis dans l'art du compromis. Donc, ça, c'est un point qui... Après, il aborde les questions du conflit conjugal.
Et le pardon ?
Il ne parle pas tellement du pardon dedans.
Ah ben, il vit pour
Si, si, mais... Non, oh, mais... Alors, je vous le fais parvenir après. Mais, en même temps... Il parle pas de dire, il n'y a pas un chapitre consacré au pardon, mais en même temps, derrière, je crois que le pardon est bien présent. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un chapitre. Du coup, ça nous, peut-être ça nous déshabitude nos, peut-être des manières habituelles qu'on a de présenter les choses, mais en même temps, le pardon, il est presque omniprésent dans le livre. Hein. Parce que, alors, du coup, il parle de deux sortes de conflits. Il dit, il y a grosso modo un tiers des conflits qu'on va résoudre et deux tiers qu'on ne résoudra pas. Pourquoi ? Et je trouve que ça c'est réaliste, c'est un aspect je trouve intéressant aussi parce que ça me paraît quelque chose d'un peu réaliste, y compris dans la vie communautaire. Voilà. Parce que il y a des conflits... les conflits qu'on ne résoudra pas, c'est que ça touche à nos différences fondamentales. Madame aime, je prends des exemples, mais il y en aurait beaucoup plus dans le livre. Madame aime bien parler, monsieur est plutôt taciturne. Mais ça, c'est quand c'est dans notre nature, on peut essayer changer l'autre à toute force jusqu'à la fin de nos jours, mais on n'y arrivera pas. Et du coup. Ce qui est sain, c'est d'essayer de vivre avec. Alors, du coup, c'est... Sinon, à mon avis, c'est une manière un petit peu... on pense qu'on va tout résoudre, mais non, il y a deux tiers des choses qu'on ne résoudra jamais, mais qu'il faudra apprendre à supporter et à vivre avec. Et je pense que c'est beaucoup plus réaliste. Parce que du coup, c'est vrai que notre amour de Dieu... Et notre foi est importante là, parce qu'on sait que ben, il faudra puiser quelques ressources pour vivre certaines choses. On ne va pas changer l'autre. On parle des qualités, au niveau de la psychologie, mais aussi au niveau du physique. Si on pense que notre mari devrait être grand et qu'il n'est pas grand, il ne va pas grandir pour autant, même si on le désire bien. Ou voilà. Et je trouve que c'est ou oh, attends, il va falloir que je...
Le loup perd son poil, mais pas son vice.
Je note les citations, les apophthegmes de Mère Marie-Pierre.
C'est qu'on m'a dit aussi, je réfléchis.
Et alors, donc, mais dans tous les cas, c'est au-delà de la difficulté qui oppose, c'est d'essayer de faire en sorte que l'autre se sente apprécié et accepté pour ce qu'il est. Je trouve que c'est, et du coup, c'est de resituer vraiment la difficulté où elle est. Le problème, ce n'est pas la personne de l'autre. C'est peut-être tel ou tel aspect de sa personnalité ou telle action qu'il peut poser, mais ce n'est pas lui qui fait problème. Et du coup, c'est que le couple puisse continuer à s'apprécier l'un l'autre tout en ayant conscience des défauts. Il prenait un exemple amusant. Un vieux couple, lui savait bien que le jour où elle allait faire des courses... son compte allait en prendre un petit coup, Mais en même temps, après, au début, ça devait le crisper, et puis il devait y avoir une scène de ménage au retour. Voilà. Et puis après, bon, il s'en amusait presque. Il savait que c'était comme ça. Et que, alors après, il s'était fixé des règles pour peut-être que qu'il ne soit pas à découvert, au moins. Ou je ne sais pas, après, il y avait peut-être... où il avait un compte supplémentaire où elle ne pouvait pas toucher. Où je ne sais pas très bien, mais... Mais en même temps, après, il s'en amusait presque. Il savait à l'avance ce qui allait arriver et ça ne manquait pas d'arriver. Et inversement, donc il prend des exemples, beaucoup d'exemples très, très concrets. Et alors, du coup, pour résoudre ces conflits, il note 5 points. De démarrer la discussion en douceur. Et non pas de sauter au cou de l'autre, voilà. D'apprendre à utiliser efficacement les tentatives de rapprochement. Alors, qu'est-ce qu'il appelle les tentatives de rapprochement? C'est quand, on essaie de montrer, voilà, on refait un pas vers l'autre, etc., pour montrer qu'on n'était pas tout à fait dans le vrai, ou voilà, de multiples manières, ou par un geste physique, ou par... pas un petit plaisir qu'on veut faire à l'autre. Il y a des tas de manières de dire à l'autre de façon indirecte, mais qu'on l'aime, même s'il y a un sujet qui nous énerve. Voilà, c'est pas pour autant qu'on l'aime pas, on lui fait son repas préféré, même si on veut parler d'un sujet. Voilà. D'être attentif aussi aux réactions physiologiques. Parce que de prendre en compte, certaines fois, on n'est pas dans notre assiette, c'est pas la peine de... Si l'autre est trop énervé ou trop fatigué, c'est même pas la peine de commencer. Donc d'essayer d'être attentif aussi à ce qui se passe, parce qu'il y a des choses, on n'est pas des surhommes, et du coup de faire avec, et puis d'apprendre l'art du compromis. Alors par exemple, il dit, quand on tient chacun un point de vue, après, de réfléchir qu'est-ce qui, dans mon point de vue, pour moi, est totalement essentiel et quels sont les points sur lesquels on pourrait faire des compromis ou je pourrais... Alors, il prenait un exemple, autant que je me souvienne. Elle voulait qu'ils achètent un chalet. Et lui voulait qu'ils économisent un peu pour leur retraite. Et du coup, finalement, c'était de voir qu'est-ce qui était comme chalet, la taille et tout ça. Bon, peut-être c'était un tout petit chalet. C'était peut-être pas l'avoir aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans. Ou,
chalet pour aller en retraite.
Alors, et lui, peut-être que telle somme, c'était suffisant, mais c'était pas non plus nécessaire d'avoir... du coup, de voir les points qui sont importants aussi pour nous, mais savoir faire des compromis aussi. Parce que si on est... pas capable de faire des compromis, on aura du mal à... Voilà. Et puis d'être plus tolérant envers les imperfections de l'autre. Voilà quelques petits éléments. Bon. Il faut que je passe vite. Alors il prend beaucoup de thèmes, hein, le premier thème qu'il prend, c'est à propos du stress. Dans beaucoup de couples, quand on arrive à la fin d'une journée, c'est pas qu'on n'aime pas l'autre ou tout ça, simplement tous les deux sont stressés parce qu'ils sont... Alors comment on gère ça? Et voilà. Après, un deuxième problème qui arrive, c'est les relations avec la belle famille. Alors là aussi, les hommes en prennent un petit coup. Il dit clairement, l'homme doit soutenir sa femme contre sa mère. Il est d'abord un époux, ensuite un fils. Il a fondé sa propre famille. Là, il explique un petit peu quand même, hein. Il ne le dit pas brutalement comme ça, mais après toute la question de l'argent, de la gestion de l'argent. Et là, il insiste pour le fait qu'on gère ça en équipe. C'est pas sur la sexualité aussi. qui est un lieu où on peut éprouver beaucoup d'humiliation, de douleur, de rejet, enfin voilà. Les travaux ménagers. Alors encore, les hommes en prennent. Il doit être féministe. Non, finalement, je ne vais pas vous le donner. Il est important de créer un sentiment de partage équitable des tâches et de travail en équipe. Les hommes doivent participer plus largement aux travaux ménagers. Je crois que vous allez l'acheter. Je sens que vous allez l'offrir à votre cher et tendre époux. Les hommes ont souvent l'impression d'en faire plus qu'ils ne font. Voilà. Mais après, il équilibre un petit peu en disant, mais voilà. Alors, il fait toute une liste, je ne sais pas à quelle page, des travaux ménagers, des travaux, en disant qu'il y a des travaux aussi qu'il faut distinguer. Alors, regardez la liste de travaux. Oh là là. Page 265. Ah oui, non, mais ça vous donne les idées, c'est concret. C'est concret. Ah ben, faire les courses, aller au pressing, planifier les repas, mettre la table, je vous en saute, dégivrer, nettoyer le réfrigérateur, aller à la banque, s'occuper des plantes vertes, emmener les enfants à l'école. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a des choses qui sont très, très matérielles, très répétitives. C'est souvent plus la femme. Et d'autres choses, comment on dit ? Remplir les feuilles d'impôt, les questions juridiques. Voilà, enfin... Il y a de voir un petit peu, il y a diversité aussi. Mais ça donne des idées, en tout cas. Ça donne des idées de... Oui, oui, bien sûr. L'idée, c'est de travailler en équipe aussi pour tout ça. Et du coup, de le visualiser, on se rend compte que l'autre en fait beaucoup. Et que... En communauté aussi, je me suis dit que ça, je pourrais le... Mais je ne vous dis rien, ça c'est pour nous. C'est notre affaire, notre vie conjugale, notre vie familiale, communautaire on va dire plutôt. Voilà. Mais, et après, donc c'est surmonter les blocages. Et alors là, il parle, il y a tout un chapitre intéressant sur les rêves. Le blocage indique que certains de nos rêves ne sont pas satisfaits ou respectés par l'autre. Et il liste 35 rêves profonds. 35. Alors, ça, mais c'est, vous en voulez quelques-uns ? Parce que dans bien des situations, on est très attaché à quelque chose, mais alors il prend des exemples, c'est très concret. Mais derrière ceux qu'on revendique, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est d'essayer de comprendre pourquoi, encore une fois, l'intelligence émotionnelle, c'est pas uniquement voir qu'il veut avoir de l'argent sur son compte, ou derrière c'est plus la sécurité et tout ça. Après, il peut y avoir des raisons dans l'enfance, dans la famille, voilà. Et puis l'autre, c'est plus le sentiment de pouvoir par rapport à l'argent et de pouvoir être libre. Et puis voilà. Alors les rêves, un sentiment de liberté, une sensation de paix, l'aventure, avoir une sensation de pouvoir, connaître ma famille, la justice, l'honneur, demander pardon à Dieu, avoir le sens de l'ordre, surmonter un complexe, hiérarchiser mes priorités, réfléchir sur ma vie, la tranquillité, bâtir quelque chose d'important. Enfin, bon, je ne vous les cite pas tous, mais bon, il donne des indications assez précises et je trouve que c'est intéressant pour voir, encore une fois, c'est de le faire pour soi-même, mais surtout que de pouvoir le partager et de comprendre aussi l'autre, quels sont ses rêves, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui. Et s'il ne faisait pas ça, il aurait le sentiment d'avoir raté sa vie. Quelque part. Alors du coup, si je le frustre par rapport à quelque chose qui est très important pour lui, il ne faut pas s'étonner que ça soit un peu compliqué en couple. Mais du coup, ça donne quelques pistes très intéressantes. Voilà. Et là encore, concilier les rêves de l'un et de l'autre. Après, il faut, bien sûr, il faut concilier. Mais là encore, ça demande un travail de réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important? Et puis, les choses sur lesquelles je peux être un peu plus flexible et voilà, c'est moins important. Du coup, ça permet de surmonter des blocages parce que quand on est très bloqué, souvent on veut tout en même temps et on ne veut pas céder sur aucun point. Quand on voit que chacun on est prêt à céder un peu, bon, c'est déjà beaucoup plus facile de trouver un terrain d'entente. Il parle aussi d'une culture de couple. Et finalement, c'est aussi de construire votre famille, qui n'est pas celle des parents, et d'avoir des rituels qui sont propres à la famille. Alors, il y a plusieurs choses, il y a sur les rituels, il y a sur les rôles au sein du couple. C'est pas les rôles sont... Selon les couples, les rôles sont un peu différents. Et parce que ça dépend, le couple dépend des deux personnes qui constituent le couple aussi. Sur les objectifs aussi, selon les familles, les objectifs sont différents. Sur les symboles. Alors, donc, c'était juste pour faire un petit peu de publicité parce que je pense qu'il y a plein de livres qui existent. Celui-là, je l'ai découvert d'une façon un peu fortuite. Fortuite à partir d'un article dans L'Invisible qui citait le docteur Gottman qui prédisait, mais ça, c'est l'aspect. Il invitait des gens dans son laboratoire, il y avait des caméras, etc., qui analysaient le visage, etc. Et au bout de 3 minutes, il pouvait dire à peu près si le couple avait des chances de tenir ou pas. Alors, mais bon, après ça se travaille, mais je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, dans l'attitude, dans le... On voyait si tout de suite ils étaient prêts à sauter au cou, sauter au cou pour s'étrangler ou alors pour s'embrasser. Quelque part dans la manière dont ils se situaient, est-ce qu'ils se comprenaient, si les gens sont complètement fermés chacun dans leur monde, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que dans tout couple, et il le dit, et de ce point de vue-là, c'est réaliste, tous les couples traversent des moments difficiles. Ça fait partie de la vie et puis voilà, c'est comme ça que l'amour grandit, comme dit le pape François, hein. C'est à travers ça aussi. Mais la différence entre les deux sortes de couples, c'est qu'il y a des couples qui arrivent à collaborer ensemble et à faire équipe pour surmonter un obstacle ensemble. Mais il y aura des obstacles dans la vie de tous les couples, il y a des obstacles. Mais du coup, c'est plutôt la manière de travailler en équipe finalement. Voilà. Alors... Bonjour.